Aujourd'hui, c'est histoire du numérique. Donc, on va faire un cours un peu sur qu'est-ce qui nous a permis d'arriver à cette situation du numérique qu'on connaît actuellement. Alors, pourquoi d'abord c'est important, à mon sens, de faire un cours sur l'histoire du numérique ? Le rôle de l'histoire, c'est de nous parler de demain, pas de nous parler du passé. C'est sympa, c'est la documentation historique qui est celle du passé. Mais quand on fait de l'histoire, on réécrit au présent des événements du passé pour en parler demain, pour voir quelles sont les résurgences de ce passé dans ce qui va arriver demain. Voilà. Donc c'est un écrit au présent, c'est un récit, c'est une manière de mettre en récit. Après, il y a des événements, il y a des faits, il y a des documents qui restent et qui sont la trace de ces faits. Tout ça existe, c'est la matérialité de l'histoire. Mais faire de l'histoire elle-même, c'est faire un récit. Donc, dans un récit, on choisit, hein, tout le monde choisit. Bon, voilà. Souvent, dans les récits qui sont liés à l'histoire de l'Internet ou l'histoire des technologies, en général, il y a cette logique de l'avancée inéluctable du progrès. Le progrès avance à coup d'innovation, à coup de découverte, à coup de grands savants, de grands ingénieurs qui, à un moment donné, font bifurquer les choses et les font avancer. Bon, moi, je pense que ça ne suffit pas à faire d'histoire parce qu'en fait, il nous faut replacer à chaque fois, si on veut comprendre la relation entre un moment technique, un moment technologique et comment il a impacté en fait la société à ce moment-là. Si on veut le comprendre, il faut replacer dans le contexte. Donc faire d'histoire, c'est aussi toujours se replacer dans un certain contexte et voir les échos. Alors, cette petite vidéo, par exemple, a un contexte. On est en décembre 68, et le contexte, c'est que jusqu'à présent, les ordinateurs marchent très peu avec des écrans, surtout avec des claviers et des imprimantes. Et là, vous avez Douglas Engelbart qui présente devant un amphi rempli, il y a parfois des amphis remplis, un amphi rempli de milliers d'ingénieurs parmi les plus pointus. C'est la conférence d'automne de l'American Computing Machinery, qui est la plus grande association de chercheurs et d'ingénieurs en informatique des États-Unis. Et il présente cet appareil. Il nous montre qu'on peut déplacer un pointeur et avoir le déplacement correspondant sur un écran. Donc il appelle ça la souris, à cause de la petite queue du fil qui traîne derrière. Voilà. Donc on est là où on a Douglas Engelbart qui nous présente à cette époque-là des nouveaux moyens d'interaction homme-machine. Si on le rapporte maintenant au fait que nous avons partout des écrans tactiles, des tas de gestes, on peut écarter les mains, on peut taper, tapoter, enfin, on a toute une série de gestes, on a du mal forcément à comprendre l'importance de ça, de celle qu'on appelle « the mother of all demos », c'est-à-dire la démo la plus importante peut-être de l'histoire de l'informatique. Hein. Donc, il nous présente en fait des nouveaux devices, des nouveaux outils pour avoir une interaction avec le système informatique. Accessoirement, dans cette même conférence, là, j'en ai que quelques extraits, il nous présente la possibilité de travailler à plusieurs sur un même document. À plusieurs qui sont à distance, puisqu'il le fait avec un collègue à lui, on le voit sur d'autres vidéos, j'ai mis le lien pour ceux que ça intéresse, il y a le lien vers toutes les vidéos de cette Mother of All Demo, qui a duré quand même une heure et demie ou deux heures. Il est en contact avec un collègue à lui qui est resté à Stanford, donc qui est à 150 km de San Francisco, ou centaines de kilomètres, et avec qui ils vont écrire ensemble sur un même document, où ils vont programmer ensemble. Bref, toute une série de choses qui maintenant sont notre quotidien. Vous écrivez ensemble vos synthèses sur un Google Doc. Ça n'a rien d'étonnant d'avoir une relation avec le système qui passe par autre chose que de taper sur les touches d'un clavier. À l'époque, c'était nouveau et il appelait ce système « augmente » parce que son idée, c'était d'augmenter la capacité des humains à acquérir l'information qui va leur être absolument nécessaire pour faire face aux défis du monde contemporain. Alors, contemporain en 68, ben aujourd'hui, on a un autre monde contemporain. Les défis sont plus tout à fait les mêmes, mais ils sont tout aussi importants. Il devient de la même intensité, d'avoir la capacité à comprendre, acquérir l'information de par le monde, etc., etc. Donc on voit bien qu'il y a toujours étudié le contexte, la manière dont c'est fait, et non pas le regarder comme des vieilles technologies qui sont depuis dépassées grâce au projet, au progrès de l'innovation. Deuxième aspect par rapport à l'histoire des technologies, c'est en fait tout ce qui renvoie au déterminisme technologique. Alors le déterminisme technologique, c'est une formule bien connue des sociologues, c'est quelque part l'idée que c'est la technologie qui va engendrer les changements dans la société. C'est l'idée qu'il y aurait une flèche du progrès qui irait toujours droit de l'avant et que les techniques, en fait, sont le moteur de cette flèche du progrès. Je parlais de 68 tout à l'heure, je parle de 2016 maintenant, je ne suis pas sûr qu'on ait fait d'énormes progrès en termes de capacité à la liberté, capacité à l'émancipation, capacité à l'égalité, capacité à la paix dans le monde, enfin, voilà. Pas convaincu qu'il y ait une flèche du progrès. Je pense qu'il y a des cycles, des moments où certaines choses avancent quand d'autres reculent et d'autres où c'est le contraire, où c'est d'autres choses qui avancent, etc., etc. La flèche du progrès, malheureusement, nous avons acquis de plus en plus de compétences, mais pas forcément de plus en plus de sagesse. Oui. Mais dans le déterminisme technologique, de la flèche d'un progrès technoscientifique, on en fait un flèche de progrès de la société. On nous dit la société est meilleure puisque nous avons des meilleures technologies. C'est exactement ça. Voilà. Et accessoirement, c'est aussi un problème d'idéologie politique, l'idée qu'il y aurait un sens de l'histoire. Donc on voit se rejoindre ces trois points, le progrès technoscientifique, la détermination du progrès de la société parce qu'il y aurait un progrès technoscientifique et l'idéologie qui aurait un sens à l'histoire et non pas une vie qui, pour le commun des mortels, va s'arrêter entre 30 et 80 ans, quoi, voilà, selon les pays dans lesquels on habite. Donc sur ces questions, je pense que c'est important parce que l'histoire, même l'histoire des technologies, hein, on nous dit qu'elle est une succession de progrès. Non, elle est une succession de choix. Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure, mais il y a des moments où on choisit telle orientation technologique plutôt que telle autre, et après on va continuer dans cette voie-là. Ce n'est pas forcément une innovation qui va en remplacer une autre. Pour prendre un exemple qui est simple et qui parle à tout le monde, à la fin des années 60, on a choisi le nucléaire contre les technologies renouvelables. Aurait-on choisi les technologies renouvelables, solaires ou tout ça, qu'on aurait très certainement, avec tout l'argent investi, fait un choix qui nous aurait amené à produire autant et aussi avec de meilleures qualités certainement une production d'électricité. C'est l'évolution technoscientifique, c'est des choix à un moment donné. Et le problème, c'est que ces choix souvent nous enferment dans le système. D'où l'importance de regarder l'histoire. Regarder quand a été fait un choix, qui a fait un choix, qui en a profité. Qui a payé le prix? Vous voyez, toutes ces choses-là sont des éléments nécessaires, y compris parce que ça nous permet, comme je disais tout à l'heure, de parler du futur. C'est-à-dire que nous faisons aujourd'hui des choix technologiques, des choix de société, bien sûr, mais des choix technologiques. Et dans ces choix technologiques, je conclurai là-dessus, mais il y a certainement des réflexions à porter sur ce qui a été l'histoire de la technologie. Donc voilà.
Apprendre tout en s'amusant, c'est désormais possible grâce à l'ordinateur. La Nièvre est le terrain d'une expérience unique. 500 micro-ordinateurs seront installés dans les différentes écoles primaires au cours de l'année scolaire. L'école Jean Massé à Nevers est déjà équipée. Voici une démonstration vivante.
Zarifa est un jeune chameau, trop jeune pour quitter sa mère. Mais il a déjà très mauvais caractère, comme beaucoup de chameaux. Contrôle de compréhension maintenant. Zarifa est-il un cheval? Oui ou non? Non, bien sûr. Aime-t-il marcher dans le désert? Réponse, non. Autre exercice, la révision du vocabulaire. Là, on joue à deux. Il s'agit par exemple de trouver des noms d'oiseaux, commençant par la lettre M, à chacun de vérifier également l'orthographe de l'autre. Finalement, grâce au micro-ordinateur, le jeune élève peut apprendre le béaba tout en s'amusant.
Ça, si c'est pas du déterminisme technologique.
Monsieur ?
Est-ce que tu apprends quand même ?
Oui.
Et là, le vocabulaire, c'est pas trop difficile ?
Non.
Tu arrives à trouver ?
Des fois, pas tout le temps.
Qu'est-ce qui te pose le plus de problèmes ?
Les noms d'habitation, les noms de véhicules.
Mais surtout, l'ordinateur laisse libre cours à l'imagination de l'enfant. Ainsi évitera-t-on peut-être certains échecs scolaires.
Là, on peut espérer que la relation à la machine sera différente, apportera quelque chose de plus, peut-être, de plus facile pour certains enfants en difficulté. Il y a peut-être aussi le désir qu'ont les enfants de réussir le programme que l'on propose. On peut supposer, on peut espérer que ce sera très stimulant pour les enfants en difficulté.
Est-ce qu'à terme, ce n'est pas la disparition de l'instituteur ?
Oh, certainement pas. D'abord parce qu'il n'est pas question d'abuser de l'ordinateur. Il est certain qu'on ne les laissera pas très longtemps devant les machines. En plus, je crois aussi que chaque maître fera de l'ordinateur, selon sa propre personnalité, ce qu'il voudra. Il l'utilisera différemment selon qu'il veut faire des programmes d'apprentissage, par exemple, ou développer certaines aptitudes de perception rapide, par exemple, ou bien peut-être aussi faire certains jeux logiques pour développer l'esprit logique des enfants.
Alors l'ordinateur, panacée ou gadget, trop tôt pour le dire, l'expérience vient de commencer.
Alors je trouve que c'est très intéressant de regarder donc, cette émission journal télévisé, hein, on est dans le grand public, replacé à son époque, et de comparer avec les mythes qu'on a à l'heure actuelle sur l'enseignement à distance, les MOOC et tous les termes qu'on utilise à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui s'est dit en fait dans cette affaire ? On peut apprendre en s'amusant. Déjà, apprendre en s'amusant. Pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas à courir sans souffrir à l'entraînement ? Alors que faire développer son cerveau, ça devrait se faire en s'amusant. Ce qui est, dès qu'on parle du sport, la notion d'effort est incluse dans l'idée qu'on parle de sport. Et on vous dit qu'il faut faire du sport, donc cette notion d'effort, elle est déjà présente. Et puis à côté, quand on vous parle de comprendre, d'apprendre, de savoir, là, la notion d'effort devrait disparaître, on va faire de l'edutainment. L'edutainment, c'est juste un secteur technologique. On appelle ça aujourd'hui en France maintenant l'edutech. Et ça reste toujours cette logique de... On va faire en sorte qu'on ait des processus pédagogiques. Bon, alors quand on voit l'exercice, voilà, oui, non, non, oui, parce que en fait, c'est ce qu'on savait programmer sur un ordinateur à l'époque. On est là aussi en plein déterminisme technologique. On savait programmer ça, donc on va faire on appelait ça de l'enseignement programmé. Répondre sans arrêt à des questionnaires. Donc, vous voyez la logique, je transforme en fait l'humain en fonction de ce que je sais faire sur la technique. Enfin, il y a tous les mythes. On ne va pas laisser l'enfant tout le temps devant l'écran. Bon, non, absolument pas. C'est quand même pas ce qu'on pourrait faire à l'heure actuelle. Et puis, il y a cette idée que l'ordinateur va remplacer l'instituteur. Question du journaliste. Si aujourd'hui, vous avez entendu parler du fait que les intelligences artificielles, on ne dit plus l'ordinateur, on parle de choses sérieuses maintenant, les intelligences artificielles vont remplacer le travail humain. Voilà. Et puis, il y a une chose qui est comment on programme ce système pour que l'enfant apprenne par lui-même, surtout s'il est en difficulté. Cas général, si l'enfant est en difficulté, c'est un problème relationnel, pas un problème d'ordinateur. C'est un problème de relation. Il a pas su comprendre à quel endroit faire l'effort. Et si on lui dit, mais non, il ne faut pas faire d'effort, tu vas t'amuser, enfin, voyez le genre de raisonnement. Mais la technique, en fait, va déterminer l'avenir de l'éducation. Mais c'est du passé, hein. C'est pas maintenant qu'on dirait des choses pareilles. Alors, derrière, comprendre aussi, faire une histoire un peu des techniques, comme Internet, le numérique, c'est aussi plutôt une histoire des discours sur les techniques. Ce qu'on appelle la technologie, en fait, c'est la technique plus le discours sur la technique. C'est pas la technique toute seule. Et ce qui est important, alors, avec l'ordinateur, on a quelque chose de très particulier, c'est que c'est une machine symbolique. C'est une machine qui traite des symboles. Et dès qu'on traite des symboles, c'est comme le langage, c'est comme les choses comme ça, on accumule des connaissances Et ces connaissances deviennent des infrastructures pour accumuler de nouvelles connaissances, pour de nouveaux savoir-faire, de nouvelles méthodes, de nouvelles compréhensions, de nouvelles bases de données, de nouvelles informations stockées, etc. etc. Et donc, cette machine symbolique, on a tendance à l'hominiser en permanence. Voilà. Alors, après, comme on fait des discours sur les techniques qu'on met en place, eh ben, la technique va essayer de se mettre à l'intérieur du discours. Je vous montrerai quelques exemples tout à l'heure. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est de savoir comment on fait ces discours. Parce que les discours, tout le monde peut parler. Moi, je parle, mais il y a quelques dizaines d'étudiants dans la salle, et encore. Et puis, voilà. Donc, il ne suffit pas d'avoir un discours et de parler. Il faut organiser le fait que son discours devienne prégnant dans la société. Et c'est, depuis les années 45, c'est typiquement avec le mouvement conjoint d'explosion des médias et d'explosion des techniques numériques, mouvement conjoint, qu'on va avoir là de nouvelles personnalités, de nouvelles célébrités, en fait, qui vont émerger à l'intérieur de cet univers de discours. Parmi ces célébrités, par exemple, il y a Steve Jobs, bien évidemment, hein, donc qui est typiquement quelqu'un dont partout dans le monde, les gens sont allés déposer des bougies, quand il est mort, devant les boutiques Apple. Vous voyez, le changement de symbolique est absolument énorme de ce que ça représente. Donc voilà, des célébrités comme ça, bon, Tim O'Reilly, Stuart Brand, dont je vais parler tout à l'heure, etc. Donc, tout cela sont Chris Anderson. En fait, comment on devient une célébrité comme ça? Il y a trois grands points que tous ont appliqués, ont mis en œuvre. La première, c'est d'organiser des événements qui vont donner de la valeur au discours que l'on porte. Alors, c'est typiquement Stuart Brand organisant en 1984 la première grande conférence des hackers à Fort Concrete, à côté de San Francisco. 400 hackers venus de toute l'Amérique, dont les plus célèbres, Steve Wozniak, Richard Stallman, etc., et qui vont discuter autour des questions d'éthique et montrer qu'il peut y avoir des bons hackers, que le hacker, ce n'est pas celui qui va aller pirater l'information des autres, c'est celui qui va transformer l'information en quelque chose qui circule et qui est libre. Donc, problème d'éthique, tout simplement. Donc voilà, organiser des conférences comme ça. Tim O'Reilly, j'en parlerai tout à l'heure, c'est lui qui a organisé la conférence Web 2.0 en 2004. Le terme, vous voyez, maintenant, tout est 2.0. Enfin, non, c'est fini, ça fait ringard. Hein. Mais bon, voilà. On peut aussi offrir des mythes technologiques. C'est Steve Jobs, je ne vous ai pas remontré la vidéo parce que je l'ai montré dans le premier cours, mais c'est Steve Jobs disant « J'ai eu la chance dans ma vie de participer à trois révolutions qui ont changé le monde ». On apporte du mythe qu'on offre, je vais revenir tout à l'heure, et typiquement, c'était le rôle des Apple Conf, les conférences de Apple, c'est s'adresser à des médiateurs, donc à des journalistes, en leur donnant un spectacle que les journalistes vont applaudir, déjà. Le journaliste, il n'est pas là pour applaudir, il est là pour regarder. Mais là, si le spectacle est tellement fait pour eux, il s'adresse à eux, et qu'ils vont pouvoir récupérer un discours qu'ils vont pouvoir relancer ensuite auprès de leur lectorat. Enfin, c'est trouver des formules. Voilà, trouver des formules, ça c'est essentiel. Alors, Stuart Brand était vraiment un grand producteur de formules. Information wants to be free, l'information doit être libre, gratuite. Hein. C'est lui qui dit we owe it all to the hippies. C'est nous devons tout ça aux hippies. Ou c'est Chris Anderson, rédacteur en chef de Wired, journaliste dans la galaxie de Stuart Brand. Vous voyez, tout ça c'est quand même aussi une petite communauté au départ qui provoque, qui donne de grands discours, ce qu'on appelle aujourd'hui l'idéologie de la Silicon Valley. Hein. Donc elle est produite, en fait, cette idéologie par un petit nombre de personnes qui vont trouver des moyens de la répartir, de moyens de devenir des célébrités. Et donc c'est d'écrire des livres, la formule de la longue traîne, qui n'a eu aucun sens économique, ça n'a pas marché, c'est à peu près logique d'ailleurs, sauf celui de la longue traîne, c'est l'idée que sur le numérique, les étagères étant infinies, même un livre qui va se vendre une fois par an, il peut toujours être disponible. Donc, il va générer une économie. Ouais. Pour qui? S'il génère une économie en se vendant très, très peu, ce qu'on a, donc la longue traîne, c'est uniquement pour la plateforme qui va pouvoir en profiter. Hein, l'auteur, l'éditeur, tout ça, tous ceux qui ont généré ces documents qui sont déposés sur les étagères numériques, eux ne vont jamais en voir la monnaie. Voilà. Mais c'est un beau mythe, cette idée que tout le monde a sa chance maintenant dans la grande course de chevaux de l'Internet. Alors, l'autre aspect, c'est que l'histoire des techniques demande de regarder la transdisciplinarité. Quand on regarde l'histoire des techniques, il faut regarder comment en interne elles ont évolué. Bon, si on regarde la traduction automatique, dans les années 50-60, l'idée c'était de comprendre la structure du langage. On a élevé des grammaires qu'on allait essayer de comprendre et de voir comme ça comment on allait pouvoir se servir de ces grammaires génératives pour, par exemple, faire de la traduction ou faire de la compréhension du langage. On est passé dans les années 70 à l'idée qu'on allait pouvoir faire de l'intégration automatique, dont j'ai parlé hier, et principalement des requêtes dites booléennes, c'est-à-dire je reconstruisais une logique avec les mots des requêtes que je portais. Là aussi, choix technologique. Au même moment, il y avait l'idée que l'on pouvait faire de la statistique sur l'usage des mots, ce dont je vous ai parlé dans le cours sur le néo-document. Mais ça, c'est la voie qui a été abandonnée parce que, y compris, elle ne correspondait pas à l'idée que se faisaient les professions d'intermédiaires de l'information, les bibliothécaires, les documentalistes, de ce qui est une recherche, cohérente, complète, saine, enfin, etc. Puis on est passé à la situation actuelle où, au contraire, c'est tous les modèles probabilistes qui l'emportent. C'est l'idée que, comme j'ai des millions de documents dans une langue, des millions de documents dans un autre, je peux trouver la meilleure correspondance, le meilleur matching, en fait, entre les phrases, les mots, les formules, sans avoir besoin de comprendre, sans avoir besoin d'avoir une théorie de la grammaire de la langue. Voilà. Donc, vous voyez, on a une évolution interne que je schématise à grand coup de brosse large. Mais bon, donc il faut essayer de regarder comment ça se passe à l'intérieur. Mais en même temps, il faut regarder quelles sont les évolutions sociales qui se font en même temps. C'est-à-dire, si on veut refuser le déterminisme technologique, par contre, il y a bien, à un moment donné, des évolutions de la société qui se font en même temps que des évolutions technologiques et qui, donc, vraisemblablement, interagissent les unes avec les autres. Et enfin, il faut regarder quels sont les changements dans l'ordre du discours, dans la logosphère, qui vont inciter les chercheurs d'un domaine précis ou les ingénieurs d'un domaine précis à aller dans le sens de ce qu'est la logosphère. Aujourd'hui, notre logosphère, c'est mégadonnées. Donc, tout chercheur qui veut faire quelque chose, il faut qu'il se dise, il faut que je rentre dans le moule de ces mégadonnées, et donc il va falloir que je vois comment je peux interpréter des données massives, rapides, informes, etc., etc. Voilà. Par exemple, on a eu cette idée de la notion de programme. En même temps qu'on mettait en place le programme informatique avec des langages de programmation, avec la capacité de faire à une machine des choses, eh bien, on s'est dit que la génétique, c'était aussi un programme génétique. Et donc, on voit bien qu'il y a là des manières de recouper les choses. On a oublié que dans la génétique, il y a aussi tant d'autres choses. Il y a l'épigénétique, c'est-à-dire le fait que nos gènes se transforment eux-mêmes en fonction de l'environnement dans lequel ils vivent. Bon. Et puis, il y a toute une partie qu'on ne connaît pas encore. Et puis, bon. Mais on a cette logique, là, d'avoir un même discours qui se transmet de discipline en discipline. Et donc, qui crée, à un moment donné, une espèce de bulle de savoir. Une bulle de savoir. Dans les années 50-60, cette bulle de savoir, c'était la cybernétique. Typiquement, les gens se sont mis à voir le monde comme un échange d'informations. Cette table est un échange d'informations, elle m'informe que je peux m'appuyer dessus, et moi, en m'appuyant dessus, je l'informe que j'ai... etc. Et donc, on a comme ça une notion générale où tout devient un échange d'informations. Voilà, c'est un peu passé de mode. Hein, parce que ça crée des systèmes qui sont un peu complexes à imaginer puis qui ne correspondent pas tellement aux mythes actuels, aux idées actuelles. Mais bon, c'était à une époque quelque chose de très très fort. Et dans la société à la même époque, l'autre science très très forte, c'est la psychanalyse, considérée comme une science, y compris comme une science du langage. Hein, donc, vous voyez, on a là des moments dans l'histoire des sciences qui, à un moment donné, font que, dans plein de domaines, on retrouve des discours qui se complètent, et on fait que les ingénieurs essayent de se rentrer dans ces discours. Et qu'aujourd'hui, où malheureusement, on a délaissé la psychanalyse, c'est-à-dire l'idée qu'on a un inconscient et qu'il parlerait souvent à notre place, et on est vers des psychologies comportementales, eh bien, on voit de la même manière nos techniciens, nos ingénieurs se mettent à programmer des machines pour qu'elles aient des comportements adaptés à l'utilisateur ou au contraire qu'elles forcent l'utilisateur à avoir des comportements adaptés à elles. C'est-à-dire qu'on a cette logique de... On est revenu vers les logiques du début du 19e siècle de stimulus-réponse. Typiquement, l'industrie de l'influence dont je vous ai parlé dans le cours sur la publicité, c'est cette logique stimulus-réponse permanente. Enfin, si on veut faire un peu l'histoire des techniques, c'est important de regarder l'histoire des mythes techniques. C'est-à-dire que les techniques elles-mêmes, elles s'intègrent à la société, on s'en sert. Souvent, ce sont les usagers qui transforment les techniques qu'on leur propose. Si une technique devient intégrée dans la société, comme le numérique, les messageries, le Minitel, etc., quelque part, c'est parce que les usagers l'ont transformée. C'était rarement prévu pour faire quelque chose, mais c'est après que ça s'est passé. Et donc, on a la production de mythes. Alors, la première chose, c'est des mythes pour mystifier. C'est-à-dire, mystifier, c'est faire oublier que dans toute histoire de la technique, ben, il y a des gens qui ont porté les techniques, qui ont développé des marchés avec, qui ont développé du pouvoir avec ces techniques, éventuellement du pouvoir militaire, donc des capacités de faire la guerre, de la gagner, d'étendre leur pays, d'impérialisme, etc. Toujours. Mais si c'est un mythe, si c'est changer le monde, le mythe aujourd'hui des technologies numériques, c'est on va changer le monde avec les technologies numériques, ben, ça sert à mystifier le fait qu'en fait, on change surtout le compte en banque de Google. Voilà. Deuxième partie, c'est les mythes pour humaniser la machine. Alors ça, c'est une autre tendance dans tous les discours sur l'informatique, c'est d'anthropomorphiser la machine. J'ai cet exemple que j'adore toujours. On est là, tournant des années, fin des années 80, et se mettent en place ce qu'on appelle les technologies des réseaux de neurones. Alors déjà, première assimilation anthropomorphe, un neurone, c'est en fait un objet informatique, un petit programme informatique, qui reçoit des entrées et qui donne des sorties et qui les pondère. Tous ces neurones sont interconnectés et on pondère la relation entre deux neurones par une série de lois, en général des lois à seuil, et qui font que les neurones sont plus ou moins proches les uns des autres. Bon, dans ces réseaux de neurones, on fait une entrée, par exemple un texte, et on demande une sortie, par exemple une sinusoïde qui ferait animerait un haut-parleur. Donc on fait de la synthèse de voix. Et on voudrait que le réseau apprenne, donc c'est des réseaux apprenants, apprenne à partir de la lecture d'un texte à faire de la synthèse vocale. Alors ça marche. Maintenant, c'est comme ça que marchent la plupart de nos systèmes, ce qu'on appelle le deep learning aujourd'hui. Sauf qu'à cette époque-là, ce qui est intéressant, c'est que le premier de ces réseaux de neurones-là, qui s'appelait NetTalk, c'est ce qu'on en a dit. On a dit quoi ? On a dit, ben, on commence par lui donner des choses, et puis il fait comme les humains. Sa première phase, c'est de faire du lallement. Il fait bafouiller le haut-parleur. Là, 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 là. Il respecte le rythme des mots, juste sans qu'il y ait de sens, etc. Puis après, il arrive de plus en plus à savoir lire au fur et à mesure de l'apprentissage, comme l'être humain. Donc, je trouve que c'est adorable comme la manière d'anthropomorphiser la machine. Alors, la machine de Google, hein, ça, quand même, c'était hier. L'IA de Google est-elle en train d'inventer son propre langage ? L'IA de Google, c'est pareil, c'est un réseau de neurones où on met en entrée une langue et en sortie une autre langue avec tout le principe d'apprentissage compte tenu des millions de documents que l'on a, dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, à l'intérieur de ces neurones numériques, ben voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe. Aucun ingénieur ne peut aller regarder puisque c'est des poids entre deux neurones qui changent tout le temps. hein, qui sont calculés à chaque apprentissage, la structure de la machine a changé. De manière, alors il y a un système de récompense, hein, ce qu'on appelle la rétropropagation du gradient, un système de récompense qui fait que si la sortie est jugée bonne, eh bien alors on dit à la machine, ouais, c'est bon. Si elle est jugée mauvaise, non, c'est pas bon. Donc les poids vont rapprocher ou écarter les neurones. Je reste là, pareil, dans des choses très simples. Hein, j'essaie juste de faire comprendre le processus interne. Eh bien, l'idée, c'est, et elle n'est pas lancée par les journalistes, elle a été lancée sur le blog des chercheurs de Google qui travaillent sur cette intelligence artificielle de traduction, qui ont dit, mais en fait, on s'est aperçu, alors on a fait anglais, coréen, coréen, anglais, anglais, japonais, et puis au bout d'un certain temps, on a essayé de faire directement coréen, japonais, et on s'est aperçu que la machine, grosso modo, y arrivait un peu. Donc ça veut dire qu'elle avait acquis une espèce de langage pivot interne, qui n'est pas l'anglais, comme coréen, anglais, anglais, japonais, mais qui serait un langage interne qu'elle aurait su développer par elle-même. Si vous voyez la capacité d'anthropomorphisme que représente un tel raisonnement, c'est assez extraordinaire, parce que d'appeler un langage qui est une forme de codage interne à la machine, voilà. Donc Google a fait la même chose, je vous en ai montré dans un des cours précédents, qui s'appelle l'isemptionisme, c'est-à-dire l'idée qu'on lui montre des images pour qu'il puisse reconnaître des choses, des tentes, des montagnes, des objets, et que, en fait, à l'intérieur, si on pique juste l'information qui est à l'intérieur, au milieu de quelques neurones qu'on a choisis, on obtient ces espèces de tableaux surréalistes que je vous ai montrés. Enfin, l'autre mythe, c'est le mythe de Frankenstein, c'est-à-dire c'est la némésis, la vengeance de la machine. Donc là, aujourd'hui, la grande némésis, c'est le travail, c'est fini. Les intelligences artificielles vont prendre notre place. Nous n'avons plus de capacité à déterminer notre futur. C'est déjà, faut abandonner et se laisser aller dans le doux flot du flux numérique permanent, etc. Ce que vous avez vu tout à l'heure dans les écoles, on nous expliquait qu'on ne resterait pas tout le temps devant l'ordinateur. Voilà. Alors ça, c'est un peu le cadre général de à mon avis, pourquoi ça fait sens de faire un cours d'histoire du numérique, pas pour faire une succession d'événements. À mon avis, ça ne fait pas sens. C'est de la documentation, c'est des documents pour ceux qui veulent traiter de l'histoire, mais ça ne fait pas sens de faire un cours. Mais c'est replacer en fait l'Internet dans cette idée qu'il y a des discours, avant tout, qui construisent des mythes, qui essayent d'avoir du déterminisme technologique, c'est-à-dire de faire croire que c'est la machine qui va changer la société, quand, en fait, c'est une relation, à mon sens, beaucoup plus complexe entre la machine et la société. Alors, si maintenant, on regarde quelques événements et qu'on voit comment cette grille de réflexion peut s'adapter aux événements qui ont été l'histoire de l'Internet. Premier pas, est-ce que c'est la première communication Internet? Moi, je ne suis pas convaincu, je pense. Le premier pas, c'est à partir du moment où tous ces chercheurs qui avaient fait de la technique, qui avaient réussi à faire marcher des messageries, des choses comme ça, sont mis d'accord sur une norme. Et une norme qui allait devenir la norme d'échange de tous les réseaux qu'on appelle TCP/IP. IP pour Internet Protocol. Appartiendrait à l'Internet toutes les machines qui accepteraient le protocole de l'Internet. Voilà, c'est une définition tautologique et ça, c'est les meilleures définitions de base. Donc voilà, c'est l'Internet, c'est toutes les machines qui respectent le protocole Internet. Et en plus, à la même date, donc en janvier 83, les gens qui avaient créé l'Unix de Berkeley, donc les machines Unix où le Unix n'appartenait pas à AT&T mais était libre, donc les machines Unix qui ont été installées dans les universités, avaient en standard dans l'Unix la pile TCP/IP. Ce qui fait que dans toute université, quand on achetait une machine et qu'on mettait Unix dessus, on pouvait se connecter. La machine connaissait le protocole Internet et donc était capable de se remettre en réseau. Alors ça, voilà. Donc on a là Bob Kahn et Vinsurf, hein, donc qui sont ceux qui ont mis au point l'ensemble du protocole. Il y a des milliers d'autres ingénieurs qui ont travaillé, mais donc c'est eux qui ont focalisé en fait le travail pour en faire une norme, hein, qui allait devenir le protocole des réseaux et qui surtout a été implémenté dans un logiciel libre, c'est-à-dire largement répandu dans les universités, avec pas de concurrence. Si le logiciel est libre, il n'y a pas de concurrence, donc je n'ai pas ma pile TCP/IP pour la machine machin de l'époque, Data General ou IBM, et une autre pile pour une autre machine d'une autre marque, etc. Tout le monde avait la même norme et elle était largement disponible, donc il n'y avait plus qu'à apprendre et s'en servir.
The day we celebrate the first glorious anniversary of the information purification directives. We have created, for the first time in all history, a garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests, obeying contradictory thoughts. Our unification of the Lords is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people. One will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail.
On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984.
Je trouve que cette vidéo, c'est un moment historique. Ça signifie mais plein de choses en même temps. D'abord, cette vidéo, elle est faite par une boîte qui vient de la Silicon Valley, qui est encore à l'époque, certes une boîte connue, qui a fait l'Apple II, qui a lancé le logiciel VisiCalc, qui permettait aux agents commerciaux de faire des calculs. Donc, c'était le premier des tableurs. C'est une boîte connue, mais ça reste quand même une petite boîte. Et elle fait cette vidéo, elle est tournée par Ridley Scott, à l'époque grande vedette qui vient de faire Alien. elle est diffusée lors de la finale de baseball, donc c'est vu par des millions de personnes, pour parler d'un ordinateur qui était quelque chose que personne n'avait dans son foyer, c'était quand même réservé plus ou moins soit à des hobbyistes, soit à des professionnels. Et là, il nous dit que ça va rentrer dans tous vos foyers, puisqu'on fait de la publicité de masse avec toutes les méthodes de la publicité de masse. Après, il y a ce que dit la vidéo elle-même. Elle dit, regardez avant, l'ordinateur, c'était un instrument de contrôle. C'est Big Brother, c'est tous ces gens en costume de flanelle grise qui réagissent tous de la même manière. C'était cette idée qui a hanté les années 60 et 70, hein, qui dit l'ordinateur, c'est un système de contrôle. Quand même, en France, on a eu des gens qui, à cette époque-là, ont inventé l'idée qu'on allait ficher tous les Français et mettre ça dans une grande banque de données, dans un ordinateur centralisé. Et ils avaient appelé, parce qu'ils sont malins, tous ces gens, ils disent l'inconscient, ça parle à leur place, ils l'ont appelé Safari. Donc on avait un Safari contre tous les Français pour les ficher. Et heureusement, à cette époque-là, il y a quand même toute une série de personnes qui se sont élevés, on dit, mais c'est pas possible. Imaginez qu'une telle chose ait existé. Moi, j'aurais pas pu changer de papier d'identité pendant la guerre et je serais mort. J'aurais été emmené en camp de concentration. Il y en a d'autres qui ont dit, mais j'aurais jamais pu participer à la résistance. Enfin, c'est inimaginable. Et ça a créé la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, créée en 78, d'un refus de ce monde d'une informatique centralisée qui captait toutes les informations. Relation avec le présent et le futur est ici complètement fortuite. D'accord ? Donc on est dans cette situation et puis arrive cette publicité qui nous dit « Mais non, l'ordinateur, c'est la seule personne en couleur, avec le logo de Apple, va briser toute cette logique de contrôle. On va avoir un ordinateur personnel qui, de surcroît, va être tendre et amical, c'est-à-dire c'est la seule femme dans ce monde d'hommes en flanelle, et qui va avoir la souris, qui va avoir tous ces outils de l'interface homme-machine qui vont en faire un compagnon de l'individu et non plus une menace pour l'individu au nom d'une informatique centralisée. Donc il y a là un vrai changement radical, comment un système de contrôle, dans le mythe, dans l'idée des gens, devient un système d'organisation de la liberté. La liberté individuelle, et puis très vite avec l'Internet, la liberté de se coordonner ces individus, c'est-à-dire d'échanger. Voilà, c'est le transparent suivant. Liberté, interactivité. Qu'est-ce qui s'est fait avec ces premiers ordinateurs quand ils ont pu se connecter dans des réseaux? Qu'ont fait les gens? Ils sont mis à se causer. C'est simple, ils se sont mis à échanger, à créer des groupes de discussion, a inventé un nouveau mode de communication qui est la communication asynchrone. Puisqu'avant, comme communication asynchrone, elle était toujours descendante. C'est-à-dire, on avait les livres, on avait les revues, etc. Donc, on n'était pas obligé de la lire au moment où l'autre personne écrivait. Mais les communications avec échange étaient toujours synchrones. On se voyait, on se parlait. On était au téléphone et on se parlait. Enfin, là, on invente une communication asynchrone. C'est à l'idée qu'on va pouvoir parler ensemble, même si on ne se voit pas, on n'est pas là au même moment. Et on va développer donc une communauté virtuelle. Elle est doublement virtuelle. Elle est virtuelle dans le temps, on n'est pas au même moment. Elle est virtuelle dans l'espace, puisqu'on n'est pas au même endroit. Et on va ajouter qu'elle va vraiment être une communauté au sens où les premiers usagers, tous leurs témoignages disent « Mais quand je rentrais chez moi, la première chose que j'avais envie, c'était de me connecter à The Well, qui est la première de ces grandes communautés. C'est là qu'a été expérimenté le terme communauté virtuelle par Howard Rheingold, celui qui a la veste chamarrée là, et qui a été créé par Stuart Brand, dont je vous parle depuis tout à l'heure, qui est en portrait à côté. Donc The Well, c'était vraiment le moment où, en fait, on a pu découvrir qu'il existait un monde qui n'était pas attaché à notre présence corporelle directe ici, là et maintenant. Donc ça, c'est quand même un élément énorme de basculement. On nous ouvre une opportunité, mais qui n'était pas prévue pour ça. Les ordinateurs, à cette époque-là, ce n'était pas prévu pour ça. Mais c'est les usagers qui en font quelque chose et qui se servent pour créer des communautés virtuelles. Et là, ça va créer une utopie. Là, une des premières utopies de l'Internet, c'est l'idée que, comme les gens vont pouvoir se communiquer indépendamment du temps et de la distance, de l'heure et de la distance, ils vont pouvoir se communiquer mondialement, indépendamment du temps et de la distance, de l'heure et de la distance, et bientôt des langues, puisqu'on allait avoir des systèmes de traduction, c'était inévitable. Et donc, on allait provoquer la paix mondiale. Ce que vous connaissez tous maintenant, puisque c'est de l'histoire ancienne. Voilà. Alors, autre élément intéressant, c'est ce livre, publié en 84 aussi, c'est le premier livre de William Gibson, à l'époque 33 ans. Il obtient, pour la parution de ce livre, les trois plus grands prix de la science-fiction, le prix Hugo, le prix Philip K. Dick et le prix Nebula. Que dit ce livre ? Il invente tout un discours, un univers dans lequel les données sont représentées par des images. Tiens, ça ne vous rappellerait pas quelque chose, ça ? Les données ? On en fait des infographies. On va se promener au milieu des infographies dans le réseau. On va aller hacker les infographies. Les médias sont au premier degré, c'est-à-dire l'œil des journalistes médiatiques, des vedettes médiatiques, est remplacé par une caméra. Et donc, on va pouvoir vivre au premier degré. Les médias sont mondialisés. Et derrière, il y a des groupes de hackers qui se baladent dans les données pour essayer de les récupérer, de les détourner, de les changer, d'obtenir plus de richesses contre les IBATU, c'est-à-dire les grands groupes de cette société de l'information. Et c'est là qu'il invente l'idée de la cyberespace. Le terme cyberespace a été forgé par William Gibson dans ce livre-là. Il forge la base de la réalité virtuelle. Le jack-in, c'est l'idée d'être connecté, de rentrer dans la matrice, hein, comme dira le film ultérieurement. Voilà. Outre que c'est un livre génialement écrit, il est très très bien traduit en français en plus. Ce livre-là va surtout être un espèce d'objectif que les techniciens vont s'efforcer d'atteindre. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on inverse là le déterminisme technologique. On a une utopie, un rêve qui est porté par un écrivain de science-fiction qui fait son premier roman, qui invente des mots venus de nulle part et qui va ensuite servir de modèle. Jaron Lanier dira, mais c'est parce que Jaron Lanier, c'est un des premiers à avoir fait des systèmes de réalité virtuelle en trois dimensions. Donc c'est dans ce livre que j'ai trouvé l'inspiration pour aller plus loin. C'est un livre qui est devenu un classique de la citation scientifique. À l'époque, on appelait des citations classiques, c'est-à-dire des articles scientifiques de référence ceux qui avaient plus de 100 citations dans d'autres articles scientifiques, hein, pas par les journaux populaires, mais dans les articles scientifiques. Et là, c'est le premier livre de science-fiction qui sera, avec une grande régularité, cité par tous les gens qui travaillent sur l'hypertexte, la réalité virtuelle, la modélisation, l'infographie, etc., etc., etc. Donc on voit là aussi ce que je disais tout à l'heure, comment en fait la technique va se mouler dans les discours, mais aussi créer ses propres utopies. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, peut-être que avec l'esprit contemporain et la jeunesse qui est la vôtre, tout ce dont je parle là, ça se faisait dans des systèmes ligne à ligne. On faisait des communautés virtuelles sur des écrans comme ça. Moi, quand j'ai connu mes premières pages web, là, on a une page web avec des numéros qu'on peut taper. Les premières communautés virtuelles auxquelles j'ai appartenu, c'était des lignes qui s'affichaient, on avait le temps de les voir s'afficher, avec des caractères en orange sur fond noir, 25 lignes, 80 colonnes. Enfin, voilà. Donc, et c'était ça qui nous servait néanmoins à développer tous les mythes de communauté, d'horizontalité, d'échanges permanents, de construction de la paix, d'équivalence de tout le monde, puisqu'on est dans le modèle client-serveur. Enfin bon, vous voyez, tous ces mythes-là, c'était quand même pas avec des systèmes d'une grande ergonomie, comme on dit actuellement. Voilà. Donc il y a un téléhack reproduit en fait des systèmes Internet d'époque. Alors, on avait nous un grand système de même type, ligne à ligne, etc. C'était le Minitel. Hein, qui est, je pense, quelque chose qu'on a... Bon, on a un problème, c'est qu'il faut toujours qu'on dise que la France est en déclin, que la France est à la traîne, que... Bon, voilà, c'est le discours, voilà, c'est... Ça ronronne, c'est bien vu, et tout ça, c'est la déprime nationale. Non, c'est pas vrai. Il y avait deux choix dans les années 80. Le choix qui était fait du Minitel, c'était le choix de l'accès à des banques de données. Le choix de l'Internet, c'est le choix de l'échange de fichiers. C'est fondamentalement ça qui est la nature différente. Ce n'est pas le fait que le Minitel, il avait des écrans avec des petits écrans, avec des petites images. Non, ça, c'est... l'autre, il était ligne à ligne, c'est pareil. Mais il servait à échanger des fichiers, là où le Minitel servait à se connecter à quelque chose. C'est le principal changement, parce que si on échange des fichiers, ça veut dire que notre terminal est un terminal intelligent, qui va savoir, une fois qu'il a récupéré le fichier, s'en servir. C'est le principe du FTP, File Transfer Protocol. Je vais chercher un fichier sur un autre serveur, je le ramène chez moi, et après, chez moi, je peux l'ouvrir. C'est un traitement de texte, c'est une image, c'est un morceau de musique, etc., etc. Aujourd'hui, on marche toujours sur ce même système de changement de fichier. Oui, quoique on a le streaming. C'est-à-dire, on revient au fait que l'intelligence, elle n'est non plus au bord sur l'ordinateur de la personne et qui va chercher des fichiers puis qui s'occupe pour les traiter, mais elle redevient au centre, dans le cloud, dans le système serveur central, dans la banque de données centrale, dans le grand Google central, dans etc., etc. Voilà. Donc, c'était pas forcément deux choses aussi absurdes l'une que l'autre, hein, puisque... In fine, l'Internet est en train de redevenir sur un modèle Minitel, hein, via le cloud. Avec, entre-temps, l'évolution technologique, mais on aurait continué sur la voie du Minitel, c'est sûr qu'on aurait eu des beaux écrans tactiles pour accéder à des banques de données. Enfin bref, on aurait eu notre Internet actuel. Hein, c'était deux choix différents. Après, ce qui est intéressant, c'est ce qu'en ont fait les usagers. Bon, c'est Noël, ma mère, d'époque.
Pudique de désigner le Minitel érotico-porno, les messageries roses, ça marche et même trop bien. Dans ce domaine, les dérapages sont faciles, vous vous en doutez, et c'est justement ce qui inquiète le ministère des PTT. Il vient de publier un communiqué dans lequel il s'émeut, et oui, du détournement abusif de ce Minitel aux fins de prostitution ou d'atteinte aux bonnes mœurs, et compte saisir à ce sujet la commission du suivi télématique. C'est vrai que certains ne se contentent pas de télémater en prolongeant leur petit dialogue par des rencontres. Claude Crespo.
Tu veux ou tu veux pas? L'élu de ton corps, bien sûr. C'est tellement facile maintenant. 3615 sur un téléphone, un code, et c'est la porte ouverte à tous les fantasmes. Mais quand ceux-ci sont un peu spéciaux, la morale peut en prendre un coup. Telle la découverte d'un réseau de prostitution d'adolescents dans le Sud-Ouest. La création de messagerie bénéficie d'un vide juridique total, Quiconque dialogue est assuré de l'anonymat le plus complet. Et puis, quelle manne ! 77 centimes toutes les 45 secondes, dont 48 tombent dans l'escarcelle du serveur.
Il ne faut pas que cet instrument d'échange soit détourné. Je crois que c'est très rarement le cas. Il y a effectivement toujours quelques brebis galeuses qui s'immiscent dans le troupeau. Il y a toujours quelques djennes un petit peu trop aguichantes qui cherchent à Tarzan musclé. Mais article 1, rien ne force Tarzan à répondre aux appels de djennes. Et d'autre part, il faudra aussi que la DGT, qui assure un petit peu la promotion du Minitel, ne se fasse pas à sa façon, par son annuaire et par l'homologation d'un certain nombre de mnémoniques, c'est un nom un peu barbare pour désigner des noms de code, qu'elle ne se fasse pas un petit peu l'instrument de promotion de messageries qui sont elles purement et simplement pornographiques. Je pense par exemple à Sexappel ou à Xtel.
Côté PTT, l'on rejette toute responsabilité, ni complice, ni espion.
Il n'est pas question d'espionner. Il est tout au plus question, si nous sommes informés par des usagers ou par la presse d'usage délictueux des moyens de télécommunication, nos directeurs régionaux saisiront la justice en adressant une lettre au procureur de la République du lieu où est installé le serveur.
Au rythme de 2 à 300 personnes qui dialoguent par jour et par messagerie, et devant l'absence
2 à 300 personnes.
Éditeur ou serveur, il semblerait que l'onirisme télématique est encore de belles heures devant lui.
Alors ce qui est quand même intéressant quand on regarde ça, c'est de la comparer avec la situation actuelle. Donc, pédopornographie, ça a été en permanence, l'Internet est un outil de... on protège les pédopornographes, etc., etc. Donc, ce mythe-là, permanent, pas lié au Minitel. La transformation de la rencontre virtuelle vers la rencontre réelle. Tinder, quoi. Ou toutes les applications de rencontre. Toute cette chose-là, à l'époque, c'était considéré comme la pornographie. Maintenant, c'est considéré comme une activité sexuelle normale. OK, c'est l'évolution des mœurs, mais ce n'est pas l'évolution entre le Minitel et l'Internet. C'est, la problématique reste la même. Que va faire la personne qui est au centre, l'homme du milieu ? Elle va dire, mais moi, je ne suis pas responsable. Vous savez, il y a un serveur, il y a un client, et moi, je ne fais que transmettre l'information. Si vous reconnaissez là le discours de Facebook, le discours de Twitter, le discours de Google, enfin le discours de tous nos grands acteurs de l'Internet, il n'a pas vraiment changé. Il s'est adapté à la situation, etc. Mais voilà, tous disent, ben moi je ne peux que être là. Mais si on me prévient, si on fait un signalement, alors je vais intervenir. Voilà. Donc ce que je veux dire par là, c'est que dès le début, les questions qui était posé par les journalistes, donc par les représentants de l'écoute populaire, les questions que se posent les gens. Souvent, les journalistes, on leur fait des tas de reproches, mais ils essayent de poser les questions que les gens, pas nous, souvent en général le voisin, etc., se posent. Donc, ce n'est pas forcément des questions déplacées, c'est des questions que la société se pose. Et ces questions-là n'ont pas beaucoup changé. Voilà, on s'aperçoit qu'elles restent semblables aujourd'hui. Alors voilà un peu ça, c'est la période, à mon sens, des années 80. Voilà, 84, 93, 83, 93, mettons. Toute cette période des années 80, dans laquelle donc on voit se développer cette logique de la communication asynchrone, même par Minitel, les questionnements qui se posent sur la société, l'évolution technique, un système ligne à ligne, et ce passage, en fait, d'un outil centralisé, d'une informatique qui fait peur, à une informatique qui est synonyme de liberté, y compris de liberté sexuelle. Alors si on revient en arrière, aux origines de tout ça, on a là une photo du premier ordinateur qui a fonctionné. Alors, premier ordinateur, il y en a eu un qui a fonctionné, qu'on pourrait appeler un ordinateur aussi, en Angleterre. On parlait un peu tout à l'heure, puis il y en a eu un qui a fonctionné aussi en Allemagne nazie. Hein, donc voilà, donc bon. Le premier, c'est toujours les vainqueurs qui racontent l'histoire. Donc voilà, c'est l'ENIAC. Et ce qui est intéressant, c'est que dès qu'il est mis en route, la presse s'est mise à parler de Giant Brain. Hein, donc c'est un cerveau. Alors qu'en fait, c'était jamais qu'un calculateur. C'était un calculateur dont la programmation se faisait en affichant des films et des fils. Et d'ailleurs, les premières programmatrices étaient des femmes. Dans la recherche de l'informatique moderne, contemporaine, enfin celle des années 40, les femmes occupaient un rôle essentiel. C'est étrange, dans l'histoire de l'informatique, la plupart du temps, elles ont disparu. On ne se rappelle à peu près que de Grace Hopper, qui est celle qui a inventé le langage COBOL, parce que le langage COBOL sert encore dans beaucoup d'entreprises pour gérer la paye. Voilà. Et derrière donc ce calculateur, on a imaginé que ça allait être une machine, un cerveau qui allait, en cumulant l'information, en multipliant les calculs, être capable de nous concurrencer. Alors, dès la fin de la guerre, on a cet Alan Turing qui fait le test de Turing, qui dit en fait, à quel moment est-ce que, quand un humain est en relation avec une machine, il ne sait plus si derrière lui il a une machine ou il a un autre humain. Ça voudra dire que la machine est devenue intelligente. Alors, qui c'est ce Alan Turing? C'est un grand mathématicien. C'est un mathématicien qui invente en fait les mathématiques numériques, avec cette idée que on peut remplacer tout raisonnement mathématique par le déplacement d'un pointeur sur une machine infinie, une machine qui va faire des opérations simples, mais sur un mode infini. Voilà. Il va se servir de ses capacités mathématiques, donc sur la calculabilité, pour décoder les messages échangés par les U-boats allemands qui étaient codés avec la machine Enigma qu'on voit en bas. Et donc, ces messages codés, il était très important de les décoder pour être capable de savoir où étaient les sous-marins et qu'est-ce qu'ils allaient faire. Quand la bombe, c'est-à-dire cet ordinateur, en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est l'ordinateur qui était installé à Benchley Park, à côté de Londres, quand cet ordinateur réussissait à décoder les messages de Enigma, d'un seul coup, le blocus de l'Angleterre était brisé, c'est-à-dire les bateaux savaient où aller pour échapper aux sous-marins. Et quand l'ordinateur n'y arrivait pas, parce que Enigma changeait ses clés de cryptage, etc., à ce moment-là, la plupart des bateaux qui amenaient le ravitaillement en Angleterre étaient détruits par les U-boats allemands. Nous avons donc là un héros de guerre. Nous avons là un héros de guerre qui invente le test de Turing, qui invente l'informatique contemporaine, qui fait fonctionner tout ça, mais qui ne pourra jamais rendre public les travaux qu'il a faits, puisque s'il était au MI5, donc il était dans le secret c'était un espion, il travaillait pour les espions, donc il n'a jamais pu publier ce qu'il a fait pendant la guerre. Et puis, Alan Turing était homosexuel. Et il sera pour cela condamné à aller en prison. Il n'a été réhabilité qu'il y a quelques années, je ne sais plus si c'est 3 ou 4, officiellement réhabilité. Donc il finira en prison et il décidera de se suicider en croquant une pomme dans laquelle il avait injecté du cyanure, déguisé comme Blanche-Neige. Je ne sais pas si c'est une histoire apocryphe ou si c'est la réalité, c'est la légende d'Alan Turing. Et derrière cette légende, il y a la légende que la pomme de Apple représenterait le suicide d'Alan Turing.
Vous avez vu le film qui est sorti il y a 2 ans?
Ouais. C'est un film. Donc comme tous les films, aujourd'hui on voit plein de films sur ces personnalités. On en a un sur Steve Jobs, que je trouve très mauvais. On en a un sur The Social Network qui est très bon. Je n'ai pas encore vu celui sur Snowden. Donc celui-ci sur Alan Turing, moi je l'ai beaucoup aimé. Ouais, je l'ai trouvé très... il représentait cette espèce de réalité qui est... Vous avez les découvertes technologiques et en même temps vous avez le poids des mœurs de la société jusqu'à le mettre en prison et le conduire au suicide. Voilà, un des grands génies de l'époque. Après... Le coup de la pomme, alors là, il y a 500 versions qui circulent sur Internet, mais je trouve que même si c'est une légende, c'est une belle légende. Et qu'à un moment donné, il faut accepter de faire l'histoire avec les belles légendes. Enfin, c'est ce que faisait Michelet, ça a pas mal servi, en fait. Voilà. Alors, autre prémisse, là aussi, avant de regarder la situation actuelle, ou le développement même de l'Internet, c'est que ça s'est fait sur des fondements idéologiques. Et cette, la question de l'influence, la relation entre l'influence et la démocratie, si ce n'est pas une question qu'on se pose à l'heure actuelle, hein, c'est quand même... Voilà. Or, cette question qu'on se pose à l'heure actuelle, est-ce que nous sommes trop influencés par les médias sociaux et que nous avons perdu toute relation démocratique? Est-ce que la publicité reste un modèle démocratique alors qu'elle se sert de nos traces pour nous influencer, etc.? Cette question n'est pas récente. Elle a été posée de manière très urgente en 1942 par un groupe de conseillers auprès du président Roosevelt qui s'appelait « The Committee for National Morale », la commission du moral national. Et l'idée, c'était celle-ci. Il va falloir que les Américains rentrent en guerre contre le nazisme. Comment faire en sorte qu'ils décident d'y aller et non pas qu'on les contraigne à y aller? C'est-à-dire qu'il y ait une volonté nationale, un moral national qui soit prêt à aller battre les nazis avec tous les risques et les réalités qu'on connaîtra ensuite de cette bataille, mais une nécessité profondément démocratique. Et donc les gens se sont posé cette question, est-ce que nous allons utiliser les armes de propagande de l'ennemi dont on avait vu en Allemagne qu'elles avaient très bien marché? Vous avez Göring ici, le discours de Göring, c'est voilà, on est un discours descendant comme celui de Hitler, avec un outil d'hypnose des populations qui serait la radio, donc les médias servent à hypnotiser la population, et donc on les fait suivre au pas de loi. Ce comité dit non, il nous faut trouver absolument une autre solution. Et cette autre solution va être de dire, ben, on va fournir plein d'informations en même temps aux citoyens pour qu'ils décident par lui-même. Et ça va être la mise en place de grandes expositions, hein, au musée d'art moderne de New York, au MoMA, menées par des artistes du Bauhaus, qui étaient émigrés, qui avaient fui le nazisme et qui étaient donc en Angleterre, et qui vont créer en fait un environnement multimédia. Les visiteurs de l'exposition, au lieu d'avoir les tableaux les uns après les autres, sont plongés au milieu du tableau. Il y en a au plafond, il y en a au sol, il y en a sur le côté, il y a des murs au milieu. Enfin, ce qu'on voit dans cette exposition, qui restera une des plus fameuses, c'est The Family of Man, qui, elle, date des années 50, mais le principe reste le même. C'est, je crois, l'exposition qui a eu un des plus grands nombres de visiteurs dans le monde, qui a duré plusieurs années, etc. Donc derrière, il y a ce concept qu'on utilise aujourd'hui dans le multimédia, qui est d'environner les gens pour les laisser décider par eux-mêmes au sein d'un environnement, par exemple nos environnements virtuels, où en fait tout est tracé, rien n'est virtuel. Dans les mondes virtuels, il y a un scénario toujours, mais la personne croit qu'elle découvre des nouveaux paysages, des nouveaux secteurs en permanence. Bon, là, on est un peu dans la même situation. Donc, on voit bien qu'on a un débat qui reste d'actualité. Est-ce qu'il faut utiliser les médias descendants? Et aujourd'hui, nos médias offusqués de l'élection de Trump disent « Mais oui, c'est parce qu'on ne nous fait pas confiance à nous, les médias, à nous, médias descendants. On ne nous écoute plus, que donc il y a une déliquescence de la démocratie et de la politique. » Et où est-ce que, d'un autre côté, il faut plonger les gens à l'intérieur d'un plein de choix d'informations et les laisser décider par eux-mêmes? C'est ce que disent les tenants des médias sociaux ou les tenants de l'Internet. C'était la logique de l'Internet. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, je ne tranche pas le débat, hein, j'en parlerai un peu la semaine prochaine, je vois bien qu'il y a deux positions, on le voit tout autour de nous, qui sont les mêmes positions que celles qui étaient utilisées dans les années 40. Alors, ce qui est un autre élément intéressant, c'est que cette logique d'utiliser l'ordinateur pour l'influence, c'est la même logique que celle qui consiste à utiliser un ordinateur pour récupérer des traces. Ce que vous voyez là, c'est un ordinateur, enfin c'est la sortie d'imprimante d'un ordinateur Ramac IBM qui était installé dans une grande exposition, l'exposition nationale américaine à Moscou en 59. C'est là qu'il y a eu le fameux kitchen débat dans une cuisine entre Khrushchev et Nixon, qui était candidat à l'époque contre Kennedy aux élections américaines. Enfin voilà. Donc c'est une grande exposition qui était faite pour que les peuples se comprennent et donc on n'aille pas à la guerre atomique. Hein. C'est pour penser que la menace de cette guerre froide, c'était l'idée qu'on pouvait avoir une guerre atomique mondiale. Et alors, que font les organisateurs de cette exposition? Ils amènent un ordinateur Ramac avec 4000 réponses préprogrammées à des questions que les Soviétiques pourraient se poser sur les États-Unis. Et il y a un opérateur, enfin, donc, avec sa belle cravate ici, qui sait parler le russe. Et en fait, cette idée-là va être à double tranchant. Un, on monte les succès technologiques américains. Enfin, à la même époque, les Russes envoyaient le Spoutnik autour de la Terre, ce qui mettait les Américains en colère. Donc, la technologie, ils savaient faire. On pose la question sur l'Amérique et on a la réponse par l'ordinateur. Indéniable, hein, c'est comme la pédagogie tout à l'heure dans les classes pour savoir si le chameau aimait le désert ou pas. Donc, mais on garde toutes les traces des questions qui ont été posées. Et on analyse ces traces, c'est l'US Intelligence Agency qui a utilisé toutes ces traces pour définir le profil de la société russe, que pensent les Russes actuellement. Donc vous voyez, cette logique qui consiste, j'utilise les traces d'un côté en faisant donner une information, en croyant organiser un échange, tout ce dont j'ai parlé dans le cours sur la publicité, était déjà en germe dans le mode de raisonnement qui avait fait emmener cet ordinateur à Moscou pour capter en fait les questions. Voilà. Toutes ces informations viennent d'un excellent livre, on ne voit pas bien ici, c'est « Le cercle démocratique » de Fred Turner, qui vient de paraître et dont j'ai eu l'honneur de faire l'édition. Voilà. Mais c'est un très bon livre parce qu'il nous montre justement toute cette découverte du multimédia avant le multimédia numérique. Qu'est-ce qui fait du multimédia et comment, en fait, on peut reprendre cette histoire-là et se poser les mêmes questions que se posaient les gens à l'époque, dans les années donc 40, 50 et 60. Comment, les questions que se posaient les gens, les manières dont ils essayaient d'y répondre, et puis de regarder notre monde actuel avec les mêmes questions. Et on s'aperçoit, c'est tout à l'heure que les questions, ma foi, sont restées assez semblables. Nous sommes environnés d'informations et c'est le mythe dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'avoir toute l'information du monde qui allait provoquer la paix mondiale, bien évidemment. Voilà. Donc c'est ce dessin de Bayer du Bauhaus qui date de 1935, donc, où on a l'idée que pour penser par soi-même, il faut être environné. Petite pause. Voilà.